Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, notre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiphaine de Rocchini, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Dernier volet donc de notre semaine consacrée à la recomposition des relations internationales. Nous parlions hier d'Asie, mardi d'Europe, lundi beaucoup des États-Unis et de la Russie. Ce matin, on va s'intéresser à l'Afrique. Quels défis politiques, sécuritaires, économiques et sociaux pour cette année 2017? Vers où va l'Afrique? Économie, sécurité, transition politique, les grands défis du continent africain.
Les cours de nos matières premières, dont le pétrole, ont connu une chute brutale, associée à d'autres chocs exogènes, terrorisme, nombreuses manifestations d'insécurité. Cette crise a profondément contribué à fragiliser nos économies.
L'Afrique a subi pleinement les effets des changements climatiques sans être un pollueur. Nous subissons la pollution des autres et nous demandons, nous exigeons à la limite la nécessité d'avoir un accord contraignant, respectable.
Je lance une invitation solennelle à la classe politique congolaise. Conformément à la Constitution de la République, il est impératif que nous conjugions de manière définitive et irréversible le vieux démon tendant à emprunter des raccourcis pour s'emparer du pouvoir de l'État par la force, ou par toute autre voie anticonstitutionnelle et non démocratique.
Le 23 décembre dernier, lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, le président camerounais Paul Biya s'est longuement exprimé sur la fragilité des économies de la région, allant même jusqu'à affirmer qu'elle pourrait mettre en péril les fondements de cette communauté économique et monétaire, appelant à l'action rapide, coordonnée et à une meilleure solidarité entre les États. Quelques mois plus tôt, c'était le président sénégalais, Macky Sall, qu'on entendait également, qui lors de la COP21 à Paris, pointait du doigt le caractère particulièrement vulnérable des pays africains et de leur agriculture, et qui exigeait que le futur accord prenne en considération le fait que les pays africains subissaient la pollution des autres et qu'ils étaient les premières victimes d'un dérèglement climatique causé par le développement de pays tiers. Et puis enfin, plus récemment, c'est Joseph Kabila, dont on entendait enfin la voix, qui a provoqué une crise politique profonde en RDC, refusant de quitter le pouvoir, empêchant la tenue d'élections qui auraient dû se tenir l'année dernière. Le récent accord trouvé le 31 décembre dernier avec l'opposition permettra peut-être de trouver une issue favorable. Pour l'année 2017, les défis pour les 54 pays d'Afrique seront nombreux. Défis politiques, sécuritaires, environnementaux, économiques, sociaux. On va tenter de parcourir un certain nombre des urgences auxquelles il faudra répondre et de voir ce que pourrait être à l'avenir la place du continent africain dans un monde où on a parfois le sentiment qu'il ne compte pas suffisamment dans les relations internationales, en tout cas au regard de son poids démographique, mais aussi de son influence en termes d'histoire et de culture. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ce matin en plateau. D'abord Pierre Jacquemot, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur de France, vous étiez notamment en poste en RDC, on va en parler, mais aussi au Kenya, au Ghana. Vous êtes maître de conférence à l'IEP de Paris, chercheur associé à l'IRIS et président du GRET, professionnel de développement solidaire. C'est une ONG de développement. À vos côtés, Francis Patindé, bonjour.
Bonjour.
Merci également beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po et collaborateur, vous êtes journaliste également, collaborateur à RFI. On va commencer peut-être avec l'actualité, celle qui nous conduit du côté de la RDC. C'est l'une des crises politiques majeures. Depuis des mois, les tensions s'accentuent à mesure que la date officielle de la fin du mandat de Joseph Kabila approche. C'était le 20 décembre dernier. Joseph, donc fils de Laurent Désiré, qui avait succédé, on s'en souvient, à Mobutu après sa chute dans les années 90. Joseph est donc arrivé au pouvoir en 2001. Il refuse de quitter le pouvoir alors même que constitutionnellement, il ne peut pas se représenter, que des élections auraient dû être organisées. Le 31 décembre dernier, donc, un accord politique a été trouvé entre le régime et les positions sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui est en gros la seule autorité morale qui a encore un tout petit peu poids dans ce monde, dans ce paysage politique national, mais beaucoup de choses restent assez floues, à la fois concernant la nature de l'accord, mais aussi sur ses conditions d'application. Pierre Jacquemot, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un accord politique en RDC et est-ce qu'on peut espérer qu'il conduise à une véritable transition politique? Pierre Jacquemot.
Oui, il y a un accord politique, même si certains membres du gouvernement estiment qu'il n'est pas totalement inclusif, parce qu'il manque encore quelques personnalités de l'opposition, et que certains sujets ne sont pas totalement réglée. Je pense en particulier au sort qui devrait être donné à un certain nombre de personnalités qui sont mises à l'écart ou sont, ils ont des difficultés à rentrer au pays. Mais on peut faire le pari que cet accord pourrait déboucher sur des élections, et c'est ça l'enjeu, d'ici la fin de l'année 2017. Pour peu que les problèmes techniques, le fichier électoral, les problèmes logistiques, l'organisation d'élections dans un pays qui est quatre fois plus grand que la France, de 70 millions d'habitants, posent des problèmes tout à fait considérables.
Et alors, il faut qu'il y ait une volonté politique pour ça aussi.
Alors, il faut qu'il y ait une volonté politique. Jusqu'à présent, le gouvernement en place, le gouvernement de Joseph Kabila, ne l'a pas démontré, puisqu'on peut dire que le fichier électoral, il avait 5 ans pour le réactualiser. Mais le fait est qu'on peut difficilement admettre que des moins de 25 ans ne puissent pas voter sous prétexte qu'ils ne seraient pas inscrits. Donc, faisons le pari que ça marche, à condition que les moyens soient mis en place et qu'il y ait une aide internationale significative pour assurer le financement de ces élections.
Francis Patinet, la question de l'inclusivité, justement, dont parlait Pierre Jacquemot, c'est-à-dire en gros la place faite aux responsables politiques de, en l'occurrence, l'actuel régime dans ce processus de transition. On se souvient que cette question de l'inclusivité, elle avait posé problème, notamment dans la révolution burkinabé. Les putschistes qui avaient tenté de mettre un terme, justement, au processus de transition, avaient exigé que les anciens cadres du régime de Blaise Compaoré, qui, on s'en souvient, avaient été chassés par la rue après plus de 20 ans de pouvoir, qu'ils puissent avoir l'opportunité de se présenter et de poursuivre, d'une certaine manière, leur carrière politique. C'est une question très délicate, évidemment, que de savoir s'il faut permettre ou non aux anciens hommes forts d'un régime dictatorial de continuer leur carrière. Mais l'expérience montre plutôt qu'il vaut mieux le faire, parce qu'ils ont souvent une capacité de perturbation extrêmement forte.
C'est vrai qu'il faut faire avec tout le monde, d'autant plus que tout le monde se connaît, comme on dit à Ouagadougou ou à Kinshasa. Il faut faire, mais avec les moins mouillés dans le système hanté, avec ce qui s'est passé.
Mais si on fait avec les moins mouillés, ça veut dire qu'on en écarte.
On en écarte certains. Il est inadmissible, par exemple, de refaire, de rediriger le Burkina Faso avec Blaise Compaoré et avec les caciques de son régime. Mais il y a des cadres qui sont moins mouillés que d'autres.
Mais où vous fixez la limite?
La limite, c'est tous ceux qui ont commis des crimes de sang, par exemple, ou qui se sont rendus coupables de prévarication, de détournement de fonds. Il est inadmissible de les associer. Ceci dit, je suis moins optimiste que Pierre Jacquemot sur la transition.
Sur le départ de Kabila.
Sur le départ de Kabila. Je pense qu'il a gagné du répit, un an de répit, et qu'il a les yeux rivés sur l'agenda international, et qu'il sait que Trump arrive, qu'il y a des trucs capables, peut-être en France, qu'il y aura Fillon. Et donc, ils sont forts, ces chefs d'État africains. Donc, il sait que peut-être dans un an, il gagne un répit d'un an et qu'il pourra peut-être rebondir.
Alors, justement, parlons de l'arrivée de Trump, parce qu'on a beaucoup souligné les incertitudes qui pèsent, bien sûr, sur ce que sera sa politique étrangère. On sait, on s'attend à un désengagement, à un repli assez général sur le théâtre moyen-oriental, évidemment, mais on peut aussi le penser du côté du continent africain. Qu'est-ce que pourrait changer, selon vous, l'arrivée de Trump pour l'Afrique? Est-ce qu'il faut s'attendre un alignement sur la fameuse doctrine Monroe et donc un principe de non-intervention quasi systématique dans les affaires africaines? C'est à ça qu'il faut s'attendre, Pierre Jacquemot?
Écoutez, la présidence Obama a été, pour beaucoup d'Africains, relativement décevante. Je pense qu'il y avait de très fortes attentes et il y a eu quelques déclarations au début de son mandat qui étaient porteurs d'une nouvelle relation avec l'Afrique, mais je pense qu'il y a eu globalement une certaine déception. Et donc, il n'y a pas particulièrement d'attente vis-à-vis de Trump. Ce qu'on peut craindre, c'est que la nouvelle administration américaine ait un regard un peu plus complaisant à l'égard de régimes qu'on évoquait tout de suite. D'ailleurs, on peut observer à l'issue de l'année 2016 qu'il y a un clivage ouest-est assez significatif. Des présidents qui sont installés depuis plus de 30 ans, Museveni 30 ans, Sassou Nguesso 32 ans, Déby Itno 27 ans, Obiang Nguema 37 ans, ces gens-là risquent pas d'être pointés du doigt par l'administration américaine. En revanche, ce serait très dommage que cette administration omette de signaler les efforts qui sont faits dans un certain nombre des avancées démocratiques qu'on a pu observer ces derniers mois. Voilà, que ça soit au Bénin avec l'arrivée de Monsieur Talon, les véritables alternances au Ghana Akufo-Addo. En Gambie, on espère qu'il y aura un positionnement américain très, très favorable à M. Barrot, encore, parce que la situation est inacceptable. Ou encore en Centrafrique ou à Sao Tomé, qui sont des illustrations d'alternance démocratique qui paraissent très porteuses d'avenir.
On va revenir justement sur ce clivage Est-Ouest, parce qu'effectivement, il était très intéressant de voir, au fond, quelles sont les racines de cette différence. Pourquoi ça fonctionne mieux, disons, du côté de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique de l'Est. Mais je voudrais vous entendre, Francis Patindé, sur l'arrivée de Donald Trump. Parce que c'est vrai qu'en Europe, on s'est beaucoup inquiété de la victoire de Donald Trump. Mais dans cette Afrique, des régimes autoritaires, voire carrément dictatoriaux, sont arrivés et plutôt une bonne nouvelle. Regardez la première rencontre de Trump avec un chef d'État africain. C'est qui? C'est Denis Sassou Nguesso, à la tête, bien sûr, de son pays depuis plus de 30 ans. C'est quand même un très mauvais signe qui est donné là à ces chefs d'État dictatoriaux, disons-le.
La rencontre a été annoncée, elle n'a pas eu lieu. Au dernier moment, elle a été annulée parce que le président Sassou Nguesso était à Miami. Et donc, c'était prévu.
On sait pourquoi elle a été annulée?
Elle a été annulée apparemment parce que des gens sont intervenus pour expliquer à Donald Trump que c'est pas le meilleur des présidents africains, c'est pas le plus représentatif. Mais ceci dit, je pense qu'il aura des relations avec la, faut pas oublier que Bush, fils, a plus investi en Afrique que Obama, dont parlait l'ambassadeur Jacques Maud tout à l'heure. Oui. Et que je pense qu'il travaillera surtout avec des pays pétroliers. Mais l'Afrique, dans l'agenda de Trump, c'est rien du tout. Hein. Le mot n'a pratiquement pas été prononcé. Et je pense que ça compte pour du beurre.
Alors, justement, sur ce clivage dont vous parliez, Pierre-Jacques Maud, c'est vrai qu'on voit que, d'une certaine manière, l'Afrique de l'Ouest arrive mieux dans les avancées démocratiques. En tout cas, il y a des avancées démocratiques plus notables, des transitions. Au Bénin, vous l'avez dit, avec l'arrivée de Patrice Talon, qui a remplacé Boni Yayi, qui aurait bien voulu, lui aussi, se maintenir au pouvoir à la faveur d'une réforme constitutionnelle. On a vu aussi le Cap-Vert, là, dernière. Alors c'est vrai, ça a été une reconduction, c'est José Carlos Fonseca, mais le scrutin s'est fait dans une relative transparence et ça reste quand même un modèle, même si tout ne fonctionne pas parfaitement, mais ça reste un modèle plutôt de bonne gouvernance, alors que du côté de l'Est, effectivement, c'est beaucoup plus difficile, on n'a eu aucune transition, on a Mousseveni, vous l'avez dit, qui a été réélu pour un cinquième mandat, on a Djibouti Omar Guelleh qui a été réélu également, on a Sassou Nguesso évidemment réélu. Comment expliquer que l'Afrique de l'Ouest connaisse, même si tout n'est pas parfait et qu'il y aurait des défis, mais des avancées notables en matière de démocratie et beaucoup moins à l'Est. Est-ce qu'il y a des raisons historiques et culturelles à ça?
La démocratie, c'est un apprentissage. Les processus électoraux, c'est un apprentissage. Et ce qu'on peut observer dans certains cas, le cas du Sénégal est assez typique, on vote au Sénégal depuis 1920. Et l'opposition a toujours existé, même pendant la période coloniale, de manière très forte. Il y a, dans certains cas, des situations où la société civile est particulièrement organisée et joue un rôle très très important dans le contrôle du processus électoral, notamment en utilisant les réseaux sociaux. Incontestablement, ça a beaucoup joué dans un certain nombre de processus vertueux. Je viens de citer le Sénégal, mais le cas du Ghana, que je connais bien aussi, est un cas très intéressant, puisque le candidat qui a gagné, Nana Akufo-Addo, s'y est pris à 3 reprises. Il y a une véritable alternance. Et tout ceci tient au fait que la société civile est particulièrement organisée, extrêmement vigilante. Les groupements de jeunes sont particulièrement dynamiques. Bon, à l'instar, évidemment.
Plus à l'ouest qu'à l'est.
Très probablement. En tout cas, on peut observer qu'il y en a marre au Sénégal. Oui. Le ballet citoyen au Burkina Faso ont beaucoup mieux pu jouer, alors que ça suffit.
Et pourquoi l'émergence d'une société civile est plus facile en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est?
Écoutez, j'ai pas d'explication de nature ethno ou anthropologique ou même historique. On peut observer aussi que la situation économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, moins plombée par la chute des matières premières et en particulier par la chute du pétrole depuis le milieu de l'année 2014, cette situation économique est bien meilleure, notamment dans des pays qui ont relativement bien diversifié leur activité. Je pense à la Côte d'Ivoire, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, pour prendre des pays qui sont dans un processus électoral, sont des pays qui sont méchamment abîmés par l'impact de cette lutte. Et donc ça a des retombées.
Il y a aussi des raisons économiques et tout. Exactement. Ça. Et d'ailleurs pour la RDC, c'est le cas, parce que c'est une crise politique, mais il y a aussi derrière ça une crise économique, et on pourrait même se demander finalement qu'est-ce qui est premier, l'un ou l'autre, la crise économique ou la crise politique. Mais on reviendra à la question économique. Francis Patindé.
Moi je pense que sur ce plus la région où le pays est riche, où dispose de minerais et tout, plus la rente situation est forte et plus la répression est terrible. C'est-à-dire que les pouvoirs en place, quand on voit là, toute l'Afrique centrale, surtout francophone, même au-delà, et certains présidents, donc Eduardo dos Santos, le président de Guinée équatoriale, Sassou Nguesso, c'est des gens qui sont au pouvoir depuis, qui cumulent plus de 37, 36 ans de pouvoir pour certains d'entre eux. Donc, c'est des pays riches en pétrole, c'est des pays où il y a une rente de situation et donc la répression est terrible. Et pour revenir à l'Afrique de l'Ouest, il y a une culture politique en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal, c'est vrai, Abdoulaye Wade, qui avant d'être président en 2000, a fait 5 tentatives, c'est la 5e tentative qu'il a pu, puisqu'il s'était présenté contre Senghor déjà. Et au Bénin, on a une culture, moi je suis du Bénin, on a une culture politique forte qui remonte à la période coloniale, les syndicats, aucun gouverneur n'a pu rester en place au Dahomey, ce qui s'appelait à l'époque le Dahomey, pendant plusieurs années, et c'était des changements à répétition. Donc, les syndicats sont forts et la société civile est également tonique. Et, par ailleurs, au Bénin, depuis l'indépendance, on a eu toutes sortes de régimes, comme en France d'ailleurs. On a eu un directoire militaire, on a eu un conseil présidentiel, 3 présidents au même moment. Donc on a goûté du marxisme-léninisme, ce qui fait qu'on est vacciné contre tout cela.
Le volet sécuritaire, si vous voulez bien. Tous les pays, on le voit, de l'arc saharo-sahélien sont confrontés à ce défi sécuritaire avec l'émergence d'un certain nombre de foyers djihadistes, depuis la Libye à la Mauritanie, en passant par le Mali, le Niger, et bien sûr le Nigeria et tous les pays limitrophes qui sont concernés par les actions de Boko Haram. Ce qu'on a observé ces dernières années, c'est que ces pays ont encore beaucoup de mal à assurer leur sécurité avec leur propre armée nationale. Pour le moment, on a encore très souvent besoin d'un appui extérieur. On l'a vu avec, évidemment, la France et l'opération Barkhane qui se poursuit aujourd'hui. Est-ce qu'on peut attendre des améliorations en la matière et sur quoi faudrait-il mettre le paquet, j'allais dire? Est-ce qu'il faut améliorer justement les armées nationales? Est-ce qu'il faut miser sur une force d'intervention africaine dépendante de l'Union africaine qui peine encore à émerger, on le voit? Finalement, comment l'Afrique doit-elle construire sa sécurité demain, Pierre-Jacques Mau?
Oui, les foyers d'insécurité sont nombreux, vous avez raison. Le Mali, le nord du Nigeria, la Centrafrique, il ne faut pas oublier, le Soudan, le Sud-Soudan, et puis de manière permanente, l'est du Congo, enfin la région des Grands Lacs. Dans chacune de ces situations, les États africains sont dans la capacité d'assurer la sécurisation de leur région. Et dans la majorité des cas, une intervention extérieure est inévitable. Ça a été le cas de la France il y a 4 ans au Mali, avec l'opération Serval, et encore aujourd'hui sur 5 pays du Sahel avec l'opération Barkhane. Mais c'est aussi l'implication importante de forces des Nations Unies, des casques bleus. On s'en souvient pas, mais les casques bleus République démocratique du Congo sont présents depuis l'indépendance, depuis 55 ans. C'est hallucinant. Ils sont encore aujourd'hui une des principales forces des Nations Unies dans le monde. Près de 20 000 militaires sont présents, venant de tous les coins du monde. Il y a d'ailleurs à ce sujet une interrogation un peu partout sur l'efficacité de ces forces des Nations Unies, dont on reproche le manque d'implication, et plutôt une attitude de force d'interposition, éviter le conflit plutôt qu'une force d'intervention pour intervenir lorsqu'il y a des situations très graves de massacre de population et le manque de courage ou d'engagement.
Ça veut dire qu'il faut changer leur mandat, il faut changer leur mission, leurs objectifs.
Régulièrement, ce sujet est évoqué au Conseil de sécurité. Il y a eu des amendements qui sont faits, l'un sur la Centrafrique, sur le Mali, régulièrement aussi sur les Grands Lacs. On appelle les forces d'intervention. Mais il y a des problèmes de mandat, mais il y a aussi des problèmes d'attitude. Quand vous êtes pakistanais, d'aller au Nord Kivu, au Caspipe, c'est pas évident. En plus, c'est un dispositif qui est relativement lourd, qui a besoin de moyens considérables, notamment en hélicoptère, en char, voilà. Donc il y a une interrogation à peu près générale en Afrique sur l'efficacité de ce dispositif des Nations Unies, mais il y a une incapacité à pouvoir lui substituer une véritable force d'intervention africaine, qui est inscrite à l'ordre du jour depuis 20 ans.
Et qui, là non plus, n'émerge pas.
Voilà, qui n'émerge pas, même si on a créé des institutions. Par exemple, à Accra, il existe une école du maintien de la paix, il y en avait une au Mali, à Koulikoro. Il y a tous les instruments, mais on n'a jamais dépassé le seuil de la déclaration.
Francis Pakindé, sur cette question de la sécurité, il a raison, Pierre-Jacques Maud, de rappeler que pour un Pakistanais, effectivement, c'est compliqué d'aller donner sa vie pour un pays.
Il n'est pas forcément très attaché. Pas souvent. Et il faut le reconnaître. Mais je pense qu'il faut, d'abord, en matière de renseignement, il faut former et réorienter les structures de renseignement dans beaucoup de pays africains. Parce que jusque-là, les gens s'occupaient d'aspects politiques du renseignement au lieu de s'occuper des aspects sécuritaires. Il y a également les militaires africains qui ont besoin de formation et d'équipement. Pour le moment, moi, je ne crois pas à une force d'interposition africaine parce que c'est pas prêt, c'est au niveau du concept. Il n'y a pas encore beaucoup de matière, il faut beaucoup de fonds et c'est pas encore le cas. Voilà.
C'est un faux acte de l'espoir.
Voilà, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer.
Oui, expliquez-vous.
C'est ma mère qui l'a fait.
Voilà, j'ai demandé à votre mère que cette ville de Niamey n'existait pas depuis 1998.
Vous connaissez tous l'hospitalité tchadienne, donc il y avait un peu la souplesse au niveau des services de l'ordre. Mais cette fois-ci, la situation de Boko Haram nous pousse à être rigoureux.
Le fait qu'on est en contact avec la population, nous, on est rassurés, ils sont rassurés, parce que nous sommes là pour la population. C'est l'objectif principal même de la patrouille. Pour cela, l'État met les moyens pour que la population déplacée soit sécurisée. Aussi, s'il y a des infiltrations, ils peuvent nous les dire, parce que tout le monde se connaît ici.
500 mètres, juste après les Doumiers que vous voyez, c'est le Nigeria. De ce côté, vous voyez même la frontière du Nigeria. Certainement, là-bas, il y en a des combattants.
Ils ont des camps d'entraînement parce qu'ils forcent les captifs à être comme eux, à être des islamistes radicaux.
Nous sommes capables de les affronter et de les exterminer.
Vous n'avez pas peur, Abadan ?
Pas du tout, nous n'avons pas peur. La peur ne fait pas partie de nos habitudes.
Voilà, des soldats tchadiens, camerounais, nigérians, nigériens qui font front commun contre Boko Haram. Ça, c'est l'une des évolutions notables qu'on a vues en matière de sécurité, c'est-à-dire l'émergence d'une force commune pour lutter contre Boko Haram, en l'occurrence, qui a été mise en place par les pays concernés, c'est-à-dire le Nigeria, le Niger, le Cameroun, le Tchad. Et d'ailleurs, c'est précisément cette régionalisation de la riposte face à Boko Haram qui a permis de réelles avancées en la matière. Parce que jusque-là, il n'y avait que l'armée nigériane qui s'en préoccupait. Et en réalité, pendant longtemps, elle était particulièrement impuissante. Vous disiez, Francis Pakindé, que vous ne croyez pas pour le moment à cette, la création d'une défense à l'échelle de l'Africaine, mais est-ce, à l'échelle de l'Union africaine, pardon. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait se diriger plutôt vers un modèle, disons, régionaliste, avec des coalitions ad hoc, comme ici, qui se créeraient en fonction, évidemment, des défis sécuritaires qui se présentent?
Absolument. Je pense que le cas que vous citez est très, très... C'est celui qui marche le mieux. Parce que, bon, Boko Haram peut frapper toujours, mais il a quand même beaucoup...
Oui, tout n'est pas réglé. Et puis, par ailleurs, ça ne se fera pas seulement sur le terrain militaire. Il y a aussi des choses à faire sur le plan économique et social.
Et donc, pour le moment, je pense que cette alliance régionale... fonctionne plutôt bien.
Donc c'est peut-être l'avenir de la sécurité du continent africain. Pierre-Jacques Maud, oui, c'est une vraie rupture du point de vue de la sécurité africaine.
Oui, mais enfin, observez que les pays qui sont impliqués au niveau de l'intervention sont les pays qui sont menacés par Boko Haram. Ça a été le cas du Nord-Cameroun, ça a été le cas du Tchad, ça a été le cas du Niger. Donc il y a un intérêt pour ces pays voisins du Nigeria à intervenir militairement pour éradiquer Boko Haram. Et il y a parmi ces pays certains qui ont une armée...
Pardon de vous couper, mais quand on regarde la chronologie des événements, en réalité, c'est plutôt précisément la régionalisation de la riposte qui a enclenché une extension des attaques de Boko Haram, quand on regarde les choses. Hein.
Oui, peut-être. C'est toujours difficile de démêler ce qui est la cause et la conséquence. Ceci étant, il y a aussi dans cette région une armée particulièrement efficace, qui est l'armée tchadienne, qui est déjà intervenue au Mali avec une grande efficacité, avec un grand courage et beaucoup de pertes humaines. C'est un cas un peu particulier d'un régime qui a toujours entretenu une armée particulièrement efficace, ce qui n'est pas nécessairement le cas des armées de certains pays voisins, comme le Cameroun ou le Niger.
Francis Pakindé, encore un élément là-dessus?
Non, je pense que effectivement ils ont intérêt, mais est-ce qu'on pourrait demander par exemple au Niger d'intervenir en Somalie? Vous voyez, bon, c'est vrai qu'il y a le Burundi et l'Ouganda qui sont là, mais dans le cadre de l'ONU. Mais ce que dit l'ambassadeur est très très vrai. Et ils ont intérêt à intervenir parce qu'ils sont attaqués par Boko Haram.
Vous voulez réagir, Pierre-Lacroix?
Oui, je voulais signaler quand même qu'il y a trois pays qui sont fortement impliqués historiquement dans les opérations de maintien de la paix, c'est le Sénégal, c'est le Ghana et c'est le Kenya. Et ces trois pays y ont trouvé un intérêt, puisque pour l'armée, pour un militaire, pour un officier, un sous-officier, c'est le moyen d'ailleurs d'avoir une accélération de sa carrière. Et cette expérience est assez intéressante, puisqu'on a vu des Sénégalais dans le Timor, on a vu aux quatre coins du monde des Ghanéens intervenir. Et il y a donc là une tradition, et d'ailleurs ce sont des armées remarquablement bien formées. Et vous avez la moitié de l'effectif de l'armée qui rentre d'une opération de maintien de la paix, une autre moitié qui s'apprête à partir, et probablement ça entretient... Donc il faut quand même signaler qu'il y a des armées africaines qui sont particulièrement aptes à ce type d'intervention et qui ont manifesté un grand courage sur un certain nombre de terrains du monde entier en matière de maintien de la paix.
Un tout dernier mot sur le volet sécuritaire et puis on passera à la question économique. L'une des premières grandes décisions, on s'en souvient, de François Hollande en matière de politique étrangère, c'était justement cette intervention au Mali avec cette opération Serval, réalisée à la demande de Bamako, rappelons-le, pour empêcher à l'époque que les forces djihadistes fassent tomber le régime. Depuis, elle a été remplacée, on l'a dit, par Barkhane, qui est toujours en cours. Quel bilan, globalement, est-ce que vous faites, Pierre Jacquemot et puis ensuite Francis Patinder, de cette intervention de l'armée française? Est-ce qu'elle vous semble avoir rempli les objectifs de départ, ou est-ce que précisément, est-ce qu'en termes d'objectifs, on n'avait pas suffisamment bien défini les choses?
Bah écoutez, il y a plusieurs expériences du passé qui démontrent que la France est souvent la seule à intervenir, le seul pays à intervenir rapidement, avec une relative efficacité dans les situations d'extrême danger pour les régimes installés démocratiquement.
Aussi parce qu'on a les moyens, c'est-à-dire que sur place on a aussi beaucoup de bases.
C'est sûr que nous avons des bases, un réseau, même s'il s'est terriblement réduit. Hein, les effectifs qu'on avait par exemple à Djibouti se sont terriblement...
Réduits ou concentrés?
Il y a eu un redéploiement, mais avec les moyens de transport actuels, on peut très bien intervenir depuis une base française très rapidement sur un théâtre d'opération en Afrique. Donc on a pu réduire très largement les effectifs présents à Dakar, à Libreville, à Djibouti, qui étaient des bases traditionnelles, ou à Abidjan. Ceci étant, il n'y a pas beaucoup d'hésitation du côté français, enfin du côté François Hollande, il y a 4 ans, lorsqu'il lui a été demandé d'intervenir pour sauver Bamako. En gros, c'est ça. C'était ça l'enjeu. Et avant de déployer d'autres forces européennes, la France était le seul à intervenir. Et il fallait intervenir dans un délai très très court. Donc il faut reconnaître quand même ce mérite à l'armée française. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup d'Africains reconnaissent ce mérite, qui s'inscrit dans une histoire longue. Il y a d'autres histoires antérieures.
Mais peut-être qu'à l'époque de l'intervention, effectivement, et on se souvient des cris de joie qui accueillaient les soldats français, quelques années plus tard, les choses sont un tout petit peu différentes. Et la perception, la représentation que se font les Maliens de la présence française est peut-être pas la même qu'au départ.
Non, mais vous avez raison. Il faut gérer l'après. Il faut bien... Bon, et ça, c'est un problème de politique intérieure, d'abord. Et dans quelle mesure les Maliens ont été en mesure de pouvoir régler au travers d'un certain nombre d'accords. Il y en a eu plusieurs l'année dernière, en 2015, en 2016, il y a eu plusieurs accords avec la rébellion. Et c'est à eux de gérer ensuite cette situation critique.
Francis Patinder.
L'intervention a été saluée par toute l'Afrique, pratiquement, à commencer par les Maliens, parce qu'il fallait agir vite et bien. Elle a laissé quand même au moins une question sans réponse. C'est le problème de l'enclave de Kidal. Pourquoi a-t-on libéré quasiment tout le septentrion malien et on a laissé aux mains de forces rebelles la ville de Kidal? Et derrière ces forces rebelles, il y a parfois des djihadistes et parfois c'est les mêmes. Donc il y a ça. Le deuxième problème éventuellement, c'est la recrudescence quand même de ces derniers mois des actions djihadistes. Donc ça veut dire que le travail reste à faire.
Ouais. Alors, la question économique, la question du développement, Pierre Jacquemot, vous avez écrit très récemment « L'Afrique des possibles et défis de l'émergence » qui est paru chez Cartala. 2016 sera été une année difficile pour les économies africaines. Les deux premières puissances économiques du continent, c'est-à-dire le Nigeria et l'Afrique du Sud, ont vu leur croissance ralentir, voire même rentrer en récession pour ce qui est du Nigeria. Je vais vous poser une question extrêmement brutale, mais extrêmement claire. Quelles sont les causes du ralentissement économique du continent africain ?
Écoutez, on passe un peu trop facilement d'un excès d'optimisme à un excès de pessimisme. Il y a des effets de peine de balancier comme ça qui sont un petit peu agaçants, je dirais, pour l'observateur avisé. Depuis l'année 2000, en gros, c'était la grande bifurcation. L'Afrique rentrait dans la mondialisation. L'Afrique rentrait avec des taux de croissance qui dépassaient ses taux de croissance démographique. Donc, sortait enfin.
C'était une nouvelle Eldorado de l'économie, voilà, de la croissance mondiale. Hein.
Et puis, depuis deux ans, en gros, depuis la fin 2014, ce qu'on appelle l'afro-pessimisme, une formule qui pour moi me déplaît profondément, reprend du poil de la bête et on entend de nouveau un discours pessimiste donc sur les perspectives économiques des pays africains. Je pense que la réponse n'est pas là. La réponse c'est dans la diversité des situations africaines. Incontestablement, les pays dont l'économie repose sur l'exportation de pétrole, l'exportation de matières premières. L'exportation de pétrole, c'est évident pour le Nigeria, l'Angola, le Congo, le Gabon, le Tchad, ou sur des matières premières, c'est évident pour le cuivre, la République démocratique du Congo, sont terriblement, entravés par la division de pratiquement de moitié des cours de matières premières. Donc là, c'est évident que ça a toute une série de répercussions négatives sur l'ensemble des économies dont on pouvait penser qu'elles sortaient du marasme. Mais ça n'est pas du tout la situation qu'on rencontre dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est sorti de 10 années de crise et qui a l'avantage d'avoir une économie relativement diversifiée, qui a toujours été extrêmement dynamique. On se souvient du miracle ivoirien des années 80. Mais c'est également le cas d'un autre pays que je connais bien, qui est le Kenya. Hein, et qui, dans son espace sous-régional, qui est un espace sous-régional parmi les plus dynamiques, probablement le plus dynamique en Afrique, qui connaissent des taux de croissance qui sont encore tout à fait vertueux.
Ouais, justement, ça, c'est étonnant, Francis Patiné, parce que la chute des prix du brut a eu un impact très important pour les pays producteurs, évidemment, l'Angola, le Nigeria, la Guinée équatoriale. Ces pays-là ont connu un ralentissement très fort. Et paradoxalement, les pays qui sont les moins riches en ressources naturelles ont mieux résisté. Le Ghana, la Tanzanie, même le Burkina Faso, d'une certaine manière, jouissent d'une santé économique relativement étonnante. Chiffre du FMI, plus de 7% pour la Tanzanie, plus de 5% pour le Ghana. C'est étonnant de voir que les pays les moins riches en ressources naturelles sont ceux qui, économiquement, s'en sortent le mieux aujourd'hui.
Et c'est une question de gouvernance et de gestion. Le Nigeria, bon, c'est vrai qu'il y a le contre-coup de la chute du pétrole, et ça se ressent d'ailleurs. Moi, je rentre du Bénin, et ça, vraiment, l'impact est réel sur l'économie. Depuis le 1er janvier, par exemple, les Béninois ne peuvent plus exporter vers le Nigeria. C'est interdit. Il y a eu une communication entre les deux régimes. Je pense que c'est une question de gestion, et que le Nigeria, sous Goodluck Jonathan, n'a pas été toujours bien géré. Le prédécesseur du président actuel.
Pourtant, l'économie nigériane sous Goodluck Jonathan s'est considérablement diversifiée.
Il y a eu la part dans le PIB. Beaucoup de scandales.
La part dans le PIB du brut, elle a fait que diminuer ces 10-15 dernières années. Pierre-Jacques Mau.
Oui, non, vous avez raison. Le Nigeria est un pays continent d'une complexité très très grande. Incontestablement, il y a un dynamisme manufacturier dans certaines régions, notamment dans la ville de Lagos, parce qu'il y a un marché immédiat qui est relativement important. Ceci étant, vous observerez que c'est un pays qui exporte son pétrole et qui importe son essence. On est quand même dans une situation assez aberrante où ce pays n'a pas été en mesure de pouvoir développer une capacité de raffinage pour sa propre consommation.
Donc vous rejoignez Francis Patiné quand il dit que c'est des problèmes de gouvernance en réalité.
Fondamentalement, ça porte un nom scientifique, hein, qui est le syndrome landais ou la malédiction des matières premières. Il est sûr que des cours très élevés suscite de la part des États, de la part des gouvernants, une espèce de prédilection pour utiliser cette rente à des fins de consommation plutôt qu'à des fins de diversification de l'économie. C'est une loi de l'histoire. Et même un pays relativement vertueux comme le Ghana est tombé dans ce piège en dépit de toutes les précautions qui avaient été formulées en 2008 par le président Koufor, qui craignait de tomber dans ce même défaut. Même ce pays a connu des difficultés importantes. Il y a une autre raison aussi, c'est quand vous avez une capacité d'exportation importante, vous avez une capacité d'endettement importante. Et quand les cours tombent, votre endettement, il reste. Et c'est probablement cette raison qui plombe pas mal d'économies concernées aujourd'hui, c'est leur incapacité à pouvoir supporter leur fort niveau d'endettement et d'être obligé de recourir, ce qui est très gênant, politiquement de nouveau au Fonds monétaire pour assurer les fins de mois.
Francis Patindé, avant de trouver un nouvel invité.
Je pense que le Ghana a également pâti de la reprise en Côte d'Ivoire. Parce que j'étais comme ambassadeur au Ghana. J'ai fait 4 ans des années où vous étiez ambassadeur. Et je travaillais pour l'ONU là-bas. Et en fait, toutes les industries qui étaient en Côte d'Ivoire pendant la guerre sont venues au Ghana. On avait une forte communauté francophone d'ailleurs à Accra. Mmh. Et en fait, depuis la reprise en Côte d'Ivoire, les gens sont retournés à... Mmh. Voilà, c'est ça.
On est avec Pierre Jacquemot et Francis Patindé, économie, sécurité, transition politique, les grands défis du continent africain, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va retrouver à présent un nouvel invité, Félouine Sarr, intellectuel sénégalais, écrivain, professeur d'économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, cofondateur du laboratoire d'analyse pluridisciplinaire des dynamiques des sociétés africaines et de la diaspora. Vous êtes, Félouine Sarr, le cofondateur avec Achille Bembe des Ateliers de la Pensée. La première édition s'est déroulée à Dakar en octobre dernier. C'est un événement qui réunissait une vingtaine d'intellectuels africains d'expression française qui se sont retrouvés pour discuter autour des transformations du monde et de la place de l'Afrique dans ce monde. On parle ce matin de l'Afrique dans le monde, justement. Des enjeux de développement pour les différents pays qui composent ce continent. Vous dites à propos du développement, justement, que c'est un concept occidental, pensé par les Occidentaux, pour les Occidentaux, et qu'en réalité, il n'est pas du tout adapté aux réalités africaines, et vous appelez à abandonner ce concept de développement. Pour quelle raison, Félouine Sarr ?
Ce qu'il faut dire, c'est que toutes les sociétés ont des défis et des aspirations. Et généralement, les aspirations de mieux-être sont des aspirations qui sont partagées par tout le monde depuis la nuit des temps. Mais si on observe l'histoire, on se rend compte que pour répondre à ces problématiques ou ces défis, les sociétés, dans leurs aventures singulières, ont produit des modalités donc différentes. Le développement, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est une réponse que l'Occident a apportée à des problématiques qui lui étaient propres. Le problème, c'est lorsqu'on veut en faire des réponses universelles qui sont valables en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances, ce n'est pas vrai. Les Chinois ont fait différemment, les tigres asiatiques font différemment, le contexte global est différent. On peut s'inspirer de ce qui se fait le mieux chez les autres, mais aucune société ne s'en sort si elle ne produit de manière endogène des réponses qui se fondent sur sa culture, sur son histoire, sur ses ressources propres, sur une économie de ses avoirs plutôt que ses manques, et si elle n'endogénéise pas les réponses qu'elle tente d'apporter. Et c'est ce qui fait que, de mon point de vue, depuis 50 ans, on teste des stratégies les unes après les autres, et elles ne fonctionnent pas. Et à mon avis, c'est parce qu'on n'a pas pris le problème à sa racine.
Oui, et puis vous dites en plus, par ailleurs, que le problème de voir cette Afrique à travers ce concept de développement, c'est qu'elle est du coup considérée comme retardée, entre guillemets, en échec, et que donc, évidemment, ça refroidit les initiatives entrepreneuriales, ça refroidit éventuellement les investissements, et du coup, il y a un véritable effet néfaste. Alors, si ce concept de développement, il n'est pas approprié au contexte africain et qu'il faut en adopter un autre, lequel est-ce qu'on pourrait adopter et quels seraient finalement les critères par lesquels, précisément, on pourrait mieux mesurer les richesses et puis aussi peut-être l'évolution quand même des conditions économiques, sociales, politiques et culturelles des Africains, parce qu'il s'agit aussi de ça, Félouine Sarr.
Je suis d'accord. Lorsqu'on est sur un chemin, on a besoin d'indicateurs qui indiquent où ce que nous en sommes et le chemin qui reste à parcourir. Donc, on a bien sûr besoin d'évaluer la dynamique sociale et la réalité sociale. Le problème, c'est que lorsqu'on l'évalue, il ne faut pas se limiter à des critères économicistes ou quantitativistes qui ne disent rien sur les autres dimensions de l'existence humaine et sociale. Je pense que le bien vivre et le mieux vivre est une notion assez large dans laquelle on peut installer un projet de société. Mais ce qui est important dans ce projet, c'est de dire qu'est-ce que l'on entend par bien vivre. Qu'est-ce qui est fondamental? Quelles sont les valeurs que l'on met en avant? Bien sûr, il faut répondre aux besoins biologiques, physiologiques des individus, mais les individus ne sont pas que des besoins biologiques et physiologiques, ils ont des besoins culturels, ils ont des besoins spirituels, ils ont des besoins éducationnels, donc la partie supérieure de leur être, donc l'esprit, a des besoins, ils ont des besoins liés à leur environnement, donc c'est une vision globale de l'homme qui prend en charge toutes ces dimensions. Et je pense que les cultures ont produit ce genre de choses-là. Elles produisent un vivre ensemble dans lequel elles ont une échelle de valeur, dans lequel elles mettent du sens et de la valeur dans plein d'éléments. Le vivre ensemble, la convivialité, les relations humaines, en plus de l'économie. Et c'est ce qui fait une société, et c'est ce qui fait une civilisation. Et je pense que même cette réflexion, elle n'est pas simplement valable pour le continent africain. À mon avis, c'est une piste de réponse vers un monde qui est en crise, qui court vers une économie matérielle qui ne sait plus où donner de la tête, même de l'Occident, on s'élève des voix pour dire, attention, les modèles dans lesquels nous sommes embarqués ne sont pas viables, ne sont pas soutenables, et il faut qu'on repense la chose.
Oui, donc il y a beaucoup de travail pour les économistes, mais pas seulement, pour les intellectuels de façon générale, parce que ce que vous nous dites, c'est qu'en réalité, il va falloir considérablement complexifier les choses pour s'extirper de ce seul indicateur qu'est le PIB, qui est celui qu'on utilise le plus généralement. Vous dites que l'Afrique doit donc se détacher finalement de ces concepts occidentalo-centrés, la croissance, le développement, le PIB en étant quelques-uns des concepts. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, par exemple, les pays africains doivent repenser leur rapport à la démocratie? La démocratie, comme on l'entend en Occident, la démocratie représentative, le processus électoral, est-ce qu'il faudrait également construire, disons, un modèle de représentation politique spécifiquement africain?
Je le pense, et je le pense pas du simple fait de vouloir se détacher des concepts produits en Occident. S'il y a des concepts qui sont produits en Occident et qui fonctionnent et qui marchent, on les emprunte, il n'y a aucun souci. La question, ce n'est pas d'être autarcique et de refuser tout ce qui vient d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'essence et de pureté fondamentale. Les peuples, les civilisations s'auto-empruntent, se fécondent mutuellement. Mais enfin, si vous voulez mettre en place des institutions qui sont légitimes, qui font sens pour les gens, ben vous devez prendre en compte leur histoire. Vous ne pouvez pas venir plaquer des institutions qui ne disent rien aux gens, ce qui fait que les gens, eux, continuent à produire des institutions immatérielles, informelles, à travers lesquelles elles règlent leurs affaires, en quelles elles ont foi. Et les institutions classiques formelles, puisqu'elles ne sont pas investies et habitées, ont du mal à jouer leur rôle. La démocratie, ce qui est important, c'est l'idée de participation du plus grand nombre et l'idée de contre-pouvoir et de contrôle. Et que même si des gens sont délégataires d'un pouvoir et doivent représenter le grand nombre, qu'on puisse les contrôler et qu'on puisse exercer des contre-pouvoirs. Et la technologie électorale, le vote ou les institutions de ce genre ne résument pas la démocratie. On voit bien que sur le continent, à chaque fois qu'il y a vote, c'est des crises, c'est des problèmes, c'est des morts d'hommes, c'est de l'instabilité, c'est du chaos. Et on se tue à vouloir épouser la forme pour dire qu'on fait comme tout le monde, au lieu de se poser la question du fond. Est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes qui assurent une alternance, une participation, une gestion pacifique des conflits, des contre-pouvoirs et du contrôle? Je pense qu'on a une histoire assez longue et riche pour aller trouver des formes institutionnelles qui fonctionnent et qui sont substantiellement démocratiques.
Oui, donc là aussi, il y a pour les pays africains un véritable défi, un modèle à trouver dans les formes institutionnelles, dans la représentation politique. Vous disiez à l'instant qu'il n'était pas question de refuser tout ce qui venait d'ailleurs. Il y a pourtant quelque chose que vous semblez repousser, et là j'en reviens peut-être à l'économie au sens plus strict, plus traditionnel du terme, c'est le franc CFA. Vous dites que les pays qui ont aujourd'hui le franc CFA devrait s'en détacher pour adopter une nouvelle monnaie. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est seulement des considérations économiques, monétaires, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Et puis peut-être la question qu'il y a derrière, c'est finalement, si c'est si important que ça, pourquoi est-ce que jusqu'ici, les pays qui l'utilisent ne s'en sont toujours pas débarrassés?
Deux réponses. La première réponse, c'est une réponse d'économiste. D'un point de vue économique, il y a des avantages, certes, stabilité, faible inflation, crédibilité, mais il y a des inconvénients. La Banque centrale ne joue pas son rôle, il nous manque un instrument. La Banque centrale, elle passe son temps à défendre la valeur du franc dans sa fonction objectif. Bon, là, je vais être un peu technique. Le niveau d'activité et le niveau de production dans la zone n'est pas la variable la plus importante. On devrait, nous, dans le contexte qui est le nôtre, plus financer nos économies, laisser un peu filer l'inflation pour avoir une plus grande de production et surtout avoir la monnaie comme un instrument. Si on a des chocs liés aux exportations, pouvoir laisser flotter le taux de change pour relancer nos économies. Tous ces leviers et tous ces éléments de flexibilité, nous ne les avons pas pour des économies qui ont besoin de booster, de dynamiser leur croissance. Donc lorsqu'on fait le compte entre les avantages et les inconvénients, une grande majorité des économistes de la zone qui ont fait des travaux empiriques sérieux, étayés, démontrent que les inconvénients surpassent les avantages. Maintenant, si tant est que les inconvénients surpassent les avantages, lorsque vous sortez, il faut que vous choisissiez, vous mettre dans une situation qui est préférable à celle dans laquelle vous étiez. Au-delà de ça, il y a aussi des arguments symboliques et je dirais géopolitiques. La monnaie est un attribut de souveraineté nationale. Être détenteur de sa propre monnaie, la gérer, l'assumer symboliquement, c'est dire je suis adulte, je prends donc le risque ou l'aventure de ma propre liberté. En plus, il y a une compétence extraordinaire au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, alors il n'y a aucune raison technique pour ne pas le faire. Les gens peuvent gérer leur monnaie et il n'y a pas d'argument économique pour rester dans ce système.
Alors, tout ce mais, c'est précisément la raison pour laquelle je me demande pourquoi ces pays n'ont toujours pas abandonné le franc CFA.
Mais parce que vous avez une monnaie qui fonctionne, et qui vous permet d'échanger, qui est stable. Probablement, nos chefs d'État ne veulent pas trop tenter ce qu'ils appellent une aventure, parce que c'est un cadre qui est rassurant pour eux. Et au lieu de voir les bénéfices de l'aventure, ils préfèrent peut-être une sorte de stabilité, un statu quo qui nous maintient dans une sorte de clair-obscur. Il faut pas se leurrer, c'est-à-dire que on a eu les indépendances dans les années 60, mais les rapports de domination politique et économique continuent à perdurer et les asymétries sont encore là. Et c'est de ça qu'il faut se défaire dans un temps long. Et c'est un processus. Et je pense que le processus est à l'œuvre puisque désormais nos sociétés civiles en font une question qu'elles ont amenée au cœur du débat.
Merci beaucoup, Félouine Sarr. Vous étiez avec nous depuis Saint-Louis. Vous êtes intellectuel sénégalais, écrivain et auteur notamment de Afrotopia qui est paru aux éditions Philippe Ray. Et à propos du franc CFA, justement, j'indique qu'il y a un appel à la mobilisation contre le franc CFA qui est organisé pour le 7 janvier prochain, qui a été lancé par l'écrivain Kémi Séba et par l'ONG Urgence Panafricaniste. Pierre Jacquemot, Francis Patindé, réaction autour de cette question, de cette remise en cause de ce concept de développement. Pierre Jacquemot, d'abord.
Écoutez, c'est un discours tout à fait salutaire. Hein. Et il est repris par un certain nombre d'intellectuels africains de manière extrêmement intéressante, extrêmement dynamique. Il y a une volonté de s'approprier, en quelque sorte, un certain nombre de concepts. C'est pas tout à fait nouveau. Hein. Il y a une longue tradition, je pense, en lisant Afrotopia, Kizerbo, qui rappelait aux Africains que pour trouver le repos, il ne faut pas s'endormir sur la natte des autres. Ça s'inscrit dans une assez longue lignée d'intellectuels africains qui revendiquent des concepts, qui revendiquent des analyses endogènes. Le concept de développement endogène, c'est un concept qui est lui aussi inscrit dans l'histoire de la réflexion sur le devenir de l'Afrique.
Oui, mais on sent quand même qu'il y a une montée en puissance de cette pensée-là.
Vous avez tout à fait raison, donc je pense que c'est tout à fait salutaire. Sur le franc CFA, si vous voulez que je dise...
Je vous en prie.
Alors, ce qui est très salutaire aussi dans cette réflexion actuelle autour du franc CFA, qui est un sujet récurrent, c'est un serpent de mer depuis très longtemps. Rappelez que le franc CFA a pratiquement 80 ans. Depuis les indépendances et évidemment depuis la dévaluation de 1994. Fort heureusement, on ne le pose plus comme un sujet résultant de l'impérialisme qui exerce en France, encore la France, sur ses anciennes colonies. C'est un sujet africain. Simplement pour dire que une grande liberté est donnée aux Africains pour pouvoir aménager, s'approprier aussi le franc CFA. À mon avis, c'est plutôt que de sortir de la zone franc ou du franc CFA, on peut changer l'appellation, hein, si elle est fortement connotée néocoloniale, mais d'en faire un objet d'intégration. Il y a deux sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour et qui ne trouvent toujours pas de solution. C'est la parité du franc CFA devrait être rattachée à un panier de monnaie. Et ça, on en parle depuis 1994, il n'y a pas eu d'avancée.
Et pour l'instant, il est rattaché à l'euro.
Il est rattaché à l'euro qui n'est pas... la zone européenne n'est pas le seul client ou fournisseur du franc CFA. Et la deuxième raison, c'est l'élargissement des membres de la communauté monétaire. Et le sujet de la Guinée, du Nigeria, du Ghana est posé pour l'Afrique de l'Ouest depuis très longtemps et n'a toujours pas trouvé de solution. Donc là, il y a des enjeux et des prises de pouvoir qui pourraient être mises sur la table et trouver des solutions.
Francis Patindé.
Je pense que le fait de parler, de débattre du franc CFA est en soi une évolution. Parce que il y a quelques décennies, on ne pouvait pas. Il y avait une omerta autour de ce sujet-là, et le fait d'en débattre, de la société civile, tout le monde en débat aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que moi, je pense qu'on s'achemine vers la fin de ce dernier lien ombilical avec l'ancienne puissance tutélaire, donc l'ancienne puissance coloniale, et que il y a des réflexions en cours pour élaborer, par exemple, pour l'Afrique de l'Ouest, une monnaie qui s'appellerait l'éco par rapport Ecoax, et il y a une structure qui est à Accra, qui réfléchit depuis des années à cela.
Il y a même un projet, alors
on
ne sait pas ce qui va arriver,
mais d'associer la Guinée et les deux ou trois pays, donc Libéria, Sierra Leone et d'autres, à cela, à ce projet-là. Et donc, moi, sans être économiste, je voudrais quand même faire une remarque, c'est que des pays comme la Zambie, à son Kwacha, il y a le Dalassi en Gambie et le Sedi au Ghana et le Naira au Nigeria, mais les économies de ces pays ne sont pas sont en meilleure posture que l'économie par exemple centrafricaine ou nigérienne. Vous savez, avoir sa monnaie nationale, je pense, c'est non seulement une question de souveraineté, mais c'est une question normale. Vous savez, c'est la survie passe à ce prix. Il y a aucune raison de continuer 60 ans après les indépendances à être rattaché à quoi que ce soit.
Mais vous avez évidemment raison, mais si on se projette un tout petit peu, parce que vous dites qu'il y a des débats, et vous avez raison, il y en a. On se dirige vers quoi ? On se dirige vers des États qui vont adopter leur propre monnaie nationale, ou est-ce qu'on se dirige vers un modèle avec une monnaie commune, selon vous ? Est-ce qu'on va vers de l'intégration ou plus de souveraineté ?
Pour l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, ce serait plutôt, puisque c'est la région dont on a parlé tout à l'heure, les politiques, la démocratie, le multipartisme avancent là-bas, il y a des projets pour une monnaie régionale.
Donc c'est ça qui viendra, il n'y aura pas de monnaie nationale. Vous pensez qu'on ira tout de suite vers
une monnaie régionale. Oui, absolument.
C'est votre avis aussi, Pierre Jacquemot ? On va sauter le pas d'une certaine manière et aller directement vers la monnaie régionale.
Écoutez, c'est le projet depuis longtemps, qui est discuté au niveau de la CDEO depuis très très longtemps. Il y a encore une échéance qui a été fixée, elle est repoussée régulièrement, à 2020, de créer cette monnaie nationale. C'est évident que l'enjeu le plus important, c'est le Nigérien, compte tenu du poids que ce grand pays occupe dans l'ensemble de la région. C'est sûr que la décision du Nigérien sera décisive dans ce domaine.
Il y avait encore beaucoup de domaines à évoquer ensemble, beaucoup de questions, des questions économiques encore très nombreuses. On n'a pas parlé de la question de l'électrification du continent qui est aussi essentielle pour le développement, même si on a compris que ce concept de développement n'était pas forcément adapté aux réalités africaines, aux réalités africaines d'ailleurs, parce que c'est au pluriel qu'il faut voir ça. La question du dérèglement climatique, il faudra vous réinviter pour une nouvelle émission, pour réaborder tous ces sujets. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Pierre-Jacques Mojo, je rappelle, ancien ambassadeur de France, notamment au Kenya, au Ghana, en RDC, maître de conférence à l'UEP de Paris, chercheur associé à l'IRIS, Francis Patindé, enseignant à Sciences Po Paris, collaborateur à RFI. Et puis, pour être presque complet, je rappelle votre ouvrage, Pierre-Jacques Mau, « L'Afrique des possibles, les défis de l'émergence » qui était paru chez Cartala. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Family members, baby, yes, when we coming again. Our love, we are bringing again. We are love, we are bringing again. Haters keep talking again, but now they're better. Black Soul me souffle Charles Le Gargasson dans le casque, effectivement, Didier Awadi, sénégalais, bien sûr, vous connaissez très bien ici, qu'on a eu d'ailleurs à ce même micro il y a quelques années maintenant. Place à notre moment des idées, à notre monde des idées avec Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors vous poursuivez l'étude des grandes fresques consacrées à l'histoire de l'Europe que vous avez entamée lundi dans la période face, celle qui va de 1989 à 2008. Une autre histoire ?
Oui, le livre de l'historien britannique Mark Mazower, traduit en français « Le continent des ténèbres, une histoire de l'Europe au XXe siècle ». Ce livre, comme ceux que j'ai évoqués précédemment, faisait enfin leur place au pays de l'autre Europe, l'Europe centrale. Son auteur y insistait sur les lourdes continuités qui courent tout au long de l'histoire européenne du siècle passé. Là où nombre de ses confrères libéraux tendaient à traiter la période des deux guerres mondiales et du fascisme comme une parenthèse fâcheuse, malencontreusement insérée dans une histoire aimantée par la recherche du progrès et de la liberté, Mazower, lui, mettait en lumière de troublantes constances. Il montrait, par exemple, ce que les États-providence et la gestion planifiée de l'économie après 1945 devaient au défi que les systèmes sociaux fascistes avaient lancé aux démocraties libérales. Et aussi ce que l'établissement des régimes communistes à l'Est devait à l'occupation. Car si les classes dominantes de ces pays n'avaient pas été sélectivement massacrées par l'occupant nazi, si les capitalistes locaux n'avaient pas été expropriés, il aurait été moins facile de procéder à la nationalisation des entreprises. Plus dérangeante encore, Mazower suggérait que l'organisation économique de la nouvelle Europe par les technocrates nazis de Albert Speer avait anticipé et inspiré l'intégration économique de l'Europe occidentale à partir du traité de Rome. Mazower dénonçait aussi l'application des recettes libérales du thatchérisme aux pays émancipés de l'ancien bloc soviétique après 1989. Sur place, à l'époque, en Europe centrale, je me souviens avoir vu arriver par charters entiers des spécialistes en transitologie. On disposait de centaines d'essais et de manuels développant les moyens d'opérer la transition d'une économie capitaliste à une économie socialiste. Mais le chemin inverse, celui qu'ont dû prendre les pays d'Europe centrale et orientale, lui, n'avait pas été prévu.
Mais les thérapies de choc qui ont été appliquées dans plusieurs de ces pays ont eu des coûts sociaux indéniables.
Oui, dans le cas de la Pologne en particulier, il y eut la thérapie de choc, stratégie imaginée et mise en œuvre par le ministre des Finances de l'époque, l'échec Balcerowicz. Elle se traduisit sur le moment par une énorme montée du chômage et par une extension de la pauvreté. Pour Mazower, les privatisations se seraient traduites en particulier par une véritable prédation opérée par des capitalistes étrangers au détriment de l'emploi local. À l'époque où il écrivait son histoire de l'Europe, c'est-à-dire le milieu des années 90, le chômage dû à la transition frappait durement les pays d'Europe centrale. Eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un pays comme le nôtre, avec un taux de chômage proche de 10%, peut envier les résultats de la République tchèque, qui connaît le plein emploi, 3,8% de chômage, ou de la Hongrie, qui en a moins de 5%. La Pologne elle-même a connu au cours des 10 dernières années la plus forte croissance de l'Union européenne et son taux de chômage, quoique élevé, est assez inférieur au nôtre. Timothy Garton Ash, dans l'article que j'ai cité à plusieurs reprises au cours de cette semaine, revient sur ce sujet. Et il le fait à l'occasion de la sortie, figurez-vous, d'un nouveau livre consacré cette fois à l'histoire de l'Europe depuis 89, et dont l'auteur, Philippe Thayer, est allemand. Thayer accable, lui aussi, les artisans de la transition au capitalisme en Europe centrale et les accuse d'avoir provoqué une dislocation sociale. Réplique de Garton Ash, ce qui peut arriver de pire à des pays qui ont subi la soviétisation de leur économie, c'est de n'avoir pas subi la transformation néolibérale. Et de citer quelques chiffres. À la chute du communisme, le PIB de la Pologne était égal à 10% de celui de l'Allemagne. Il est aujourd'hui 53%, passé en un quart de siècle. L'Ukraine s'est épargnée une transition de ce type, moyennant quoi son PIB par habitant qui était comparable à celui de la Pologne en 1989 est aujourd'hui 3 fois inférieur. Philippe Thayer a bien tort, poursuit Garton Ash, de supposer que les artisans de la transition au capitalisme étaient des idéologues néolibéraux adeptes du thatchérisme. Lui qui les a bien connus peut en témoigner. Tadeusz Mazowiecki, le premier ministre de l'époque Balcerowicz, était un chrétien démocrate à tendance socialiste. Et son ami Bronisław Geremek lui avait expliqué à Garton Ash, « Voyez-vous, l'économie étatisée et administrée, c'est comme un énorme bunker de béton. Pour la détruire, il nous fallait un non moins énorme bulldozer. » Ses dirigeants, selon Garton Ash, auraient préféré une social-démocratie de type scandinave si elle avait été à leur portée. Mais il leur fallait d'abord reconstruire l'économie sur les ruines d'un socialisme qui avait échoué de manière radicale. Quelle était l'alternative? Mais il est vrai que l'intelligentsia libérale urbaine au pouvoir a négligé ce qu'on appelle la Pologne B, celle des petites villes et des campagnes. Elle a assisté au rapide enrichissement des citadins éduqués alors que son sort ne s'est pas beaucoup amélioré. En outre, ces populations très conservatrices sur le plan des mœurs ont été choquées par les réformes libérales mises en œuvre sous le gouvernement de Donald Tusk, comme le droit à l'avortement ou l'égalité des homosexuels. Résultat de ces frustrations accumulées, la victoire des populistes conservateurs de droit et justice en 2015, une des causes de la dislocation de l'Union européenne.
Merci beaucoup Brice Couturier, Marc Mazower, traduit en français.
Oui.
Alléluia, le continent des ténèbres, une histoire de l'Europe au XXe siècle. Non, je dis Alléluia parce que hier vous avez parlé d'un italien, d'un anglais, d'un américain.
On n'a rien.
Qui a été traduit mais sur Mazower, l'histoire de l'Europe. Traduit dans quasiment toutes les langues, et notamment
Norman
même
Davis.
En
ça
japonais,
c'est Norman Davis.
Norman Davis
traduit voilà, en japonais, mais
traduit en français malheureusement. On peut retrouver toutes vos chroniques bien sûr sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve bien sûr demain pour poursuivre ces histoires de l'Europe.